Bonjour chers amis auditeurs, donc nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau au château de Lantis avec vraiment un très grand plaisir. Marie-Madeleine, bonjour, vous nous rejoignez.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Voilà, donc nous sommes dans la cour du château qui est magnifique avec ses carrés de verdure qui sont juste devant, tables et chaises et parasols pour accueillir le public. Il fait très beau et très chaud. Alors nous approchons Marie-Madeleine. Voilà, on entend les cailloux sous nos pas et nous approchons de la porte d'entrée. Marie-Madeleine, je vous laisse appeler la propriétaire. Oh, merci. Donc la porte est ouverte, mais probablement qu'elle a dû entendre, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Voilà. Voilà, donc nous avons la propriétaire qui arrive. Voilà,
Bonjour,
bonjour
bonjour
Françoise.
Martine, bonjour Marie-Madeleine, bonjour
Bonjour
chers
Françoise.
auditeurs.
Voilà, donc nous nous retrouvons avec plaisir chez vous,
Ouais, plaisir
au
partagé.
château de Lantis. Et nous allons continuer la visite que nous avions commencé déjà du château à la dernière, lors des deux dernières émissions. Donc nous étions dans la cuisine des militaires et nous étions après, nous avons visité derrière cette cuisine qui est devenue la véritable cuisine pour vous en tant que propriétaire. Et donc nous allons continuer cette visite avec une joie immense. Voilà, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, nous entrons, voilà, nous changeons complètement d'acoustique et nous sommes en face d'un escalier absolument magnifique. Et donc nous entrons à gauche, Françoise, dans une pièce très grande, très haute. Elle servait à quoi cette pièce?
Alors, cette très grande salle qui fait 100 mètres carrés au sol et presque 5 mètres de hauteur de plafond, c'était la salle des gardes. Une salle où les militaires pouvaient se réunir en toute sécurité, puisque la salle ne... Maintenant, on voit des portes-fenêtres, mais autrefois, il y avait des fenêtres hautes comme dans la cuisine, donc à vertu militaire, bien sûr. Et c'est une pièce dans laquelle il n'y avait qu'une petite porte donnant sur l'intérieur du château. Et chaque porte intérieure était défendue par une sentinelle.
D'accord. Est-ce que cette salle, c'est ce qu'on appelait la salle des gardes ou la salle de garde?
Oui, c'est la salle de garde, donc
Voilà.
la salle des gardes, où se tenait donc cette petite troupe, puisqu'il y avait 15 officiers à demeure, donc qui certainement habitaient cette pièce, et une centaine de sergents d'armes, des hommes à pied en armes, qui étaient logés un petit peu autour, puisque on sait par les archives qu'il y avait des écuries, des dépendances, des communs qui permettaient le logement de ces hommes, de ces sergents d'armes. Alors la salle est très grande et les militaires avaient une autarcie complète puisque cette salle comprend une cheminée, une grande cheminée qui permettait de faire cuire ou de se chauffer et sur le mur opposé un évier dédié aux militaires. Et un cendrier. Le cendrier, c'est un petit four, un peu comme le four à pain, mais beaucoup plus petit et sans conduit de cheminée. Et dans ce cendrier, on plaçait de la braise rouge pour fumer les jambons et les poissons. Donc c'était la longue conservation. Voilà.
Effectivement, quand on rentre dans cette pièce, nous l'apercevons juste en face. Cet évier et ce dont vous venez de nous expliquer. Et pour aller à ce petit four, on passe sur un plancher en bois qui est absolument superbe. Est-ce que à l'origine, il n'y avait pas de plancher en bois, je suppose.
Non, ça devait être des pierres, évidemment. Un dallage de pierres qui est posé sur le dessus d'une voûte en dessous. Alors, lorsque nous avons dégagé toute cette terre, puisqu'il y avait des tonnes de terre et de caillasses qui cachaient le château, nous avons eu la surprise de trouver des lambourdes, ces poutres, ces grosses poutres posées au sol, qui servaient à poser un parquet. Alors, ces lambourdes étaient momifiées par le temps, et en très très bon état de conservation. Et l'architecte des bâtiments de France nous a proposé de parqueter sur les lambourdes. Donc nous avons recalé les lambourdes avec des plots pour que tout soit bien au niveau, et nous avons parqueté dessus. Alors la surprise a été de découvrir une déclive importante. Alors étonnement, avait-il mal vu l'architecte à l'époque, était-il pas tout à fait conscient de la déclive et du fait que le sol est en pente? Alors nous avons quand même dû parqueter sur les lambourdes, parce que en dessous on n'a pas pu bouger puisqu'il y a une voûte, et donc on n'a pas pu modifier la nature de la déclive. Alors nous avons reposé le parquet en fait tel qu'il était probablement fin 17e, début 18e siècle, au moment où on ne se battait plus. Alors cette déclive nous a interpellés. Pourquoi poser un parquet complètement en pente? Eh bien, cette salle des gardes, qui était pavée certainement de pierre, était une salle militaire. Et lorsqu'il y avait bataille, lorsqu'il y avait conflit, les blessés étaient rassemblés dans cette salle et opérés dans cette salle. Alors, qui opérait? Ça n'était évidemment pas un médecin, on est très loin de Paris, ni un chirurgien, c'était le boucher ou le barbier.
Ah, effectivement, oui.
Qui opérait? Sans aucun moyen, il n'y avait pas d'anesthésie. Peut-être qu'ils avaient droit à un petit peu...
Oui, un petit coup de gnoll.
Un petit coup de prune. Mais c'était à vif. Et le boucher ou le barbier amputait et cautérisait les plaies au feu, donc voilà. Au fer rouge. Et la déclive, c'était... Nous avons trouvé cela dans les archives pour lessiver les humeurs. Donc on poussait le sang et tout ce qui pouvait sortir vers l'extérieur, vers les fossés du château. Voilà. Et le parquet est en déclive, mais non seulement dans un sens, mais dans l'autre aussi, pour permettre l'évacuation par la porte.
Voilà, par la porte et par les côtés alors.
Non, parce qu'il n'y avait pas de côté.
Il y avait un mur.
Il y avait des murs.
Enfin, tout, il y a un mur.
C'était, voilà, il y avait les murs. Et il n'y avait que cette petite porte qui donnait dans l'escalier
et dans l'entrée.
Et dans l'entrée, oui. Et qui permettait l'évacuation des humains.
Par l'entrée, alors.
D'accord, oui. Porte par laquelle nous passons, effectivement, voilà. Pour rentrer dans cette salle.
Exactement.
C'est vrai que le plancher monte quand on rentre dans cette salle par l'entrée. Il monte légèrement.
Il monte légèrement et on réalise tout à fait ces hommes couchés au sol. Oui. Et qui, alors, ils n'étaient pas couchés sur le parquet, puisque quand ils étaient au moment des batailles, c'était un dallage. C'était un dallage. Alors, nous n'avons pas reposé de dallage parce que, évidemment, on a des voûtes très anciennes en dessous. Qui date du Moyen-Âge, et il eût été quand même assez hasardeux de 500 ans plus tard ou 700 ans plus tard de reposer des grosses dalles sur une voûte qui peut être fragile.
Voilà, et donc quand vous parlez de voûte, ce sont bien les salles que vous devez encore
excaver,
voilà, c'est ça. Hein,
ce sont des salles qui se trouvent en dessous du rez-de-chaussée du château, du rez-de-chaussée actuel du château.
D'accord. Et quand on rentre, il y a donc cette grandeur de pièce au niveau du sol, mais il y a également une hauteur de plafond assez importante.
Oui, alors toutes les salles des gardes avaient un plafond très très haut. C'était aussi un signe de noblesse.
D'accord.
On ne vivait pas dans des chaumières avec un plafond bas. On voulait avoir de la hauteur. Mais il faut imaginer que ces hommes n'étaient pas si petits que ça. On a des bribes dans les archives de la façon dont étaient recrutés les militaires. Alors on sait qu'il y avait des hommes attachés au château qui passaient de village en village et qui repéraient les jeunes garçons qui avaient 10-12 ans, qui étaient dans le texte bien membrés, c'est-à-dire avec un potentiel de croissance. Alors ils étaient emmenés de gré ou de force ou vendus par la famille, on ne sait pas trop, au château. Et ces jeunes garçons étaient à ce moment-là bien nourris. Ils avaient de la viande, ils mangeaient à leur faim et ils étaient entraînés au métier des armes. Ce qui faisait qu'on avait des garçons, puis des hommes qui faisaient quand même 1m70, 1m75, ce qui était beaucoup plus important que les villageois qui faisaient, eux, 1m50, 1m55. On avait un développement de la puberté jusqu'à l'âge adulte où ces hommes étaient bien, bien formés et aguerris très tôt au métier des armes. Et je dirais même, avec notre conscience maintenant du 21e siècle, peut-être avec une reconnaissance vis-à-vis des sergents recruteurs et du seigneur de Lantis qui leur permettait de grandir en ayant le gîte et le couvert. Ce que n'avaient pas les pauvres paysans qui étaient réduits souvent à manger l'hiver les marrons qu'ils avaient enfouis dans le sol avant l'automne.
Oui, des bouillies de farine, de châtaigne.
Voilà, c'est ça, des gruaux. Et on sait qu'ils ne mangeaient pas du tout à leur faim.
Oui.
Alors, quand nous entrons dans cette pièce, donc elle est meublée maintenant, je ne vais pas dire façon 21e siècle, mais elle est meublée, nous apercevons tout de suite au niveau des murs, là, je parle donc à droite, nous avons des tapisseries. Alors, Marie-Madeleine ou Françoise, vous allez pouvoir nous expliquer un peu ces tapisseries.
Françoise, ce sont des reproductions.
Voilà, ce sont des reproductions de tapisseries. Tous les meubles, après l'incendie du château en 2004, nous n'avions absolument plus aucun meuble. Et ce sont des donations. Alors, il y a des tapisseries anciennes, mais il y a des tapisseries, des copies de tapisseries, mais qui permettent au château d'être égayé et d'avoir les murs garni. Alors, ces tapisseries et tout ce qui est au mur, nous les enlevons l'été, puisque régulièrement, il y a des expositions de tableaux et de photographies. Donc, ce sont des tapisseries qui sont exposées l'hiver et à l'intersaison. Mais là, à partir du mois de juin, il y a des expositions de photographies ou de tableaux ou d'œuvres d'art et qui remplacent la décoration d'hiver.
Alors, Marie-Madeleine, peut-être la première tapisserie que nous apercevons à droite.
Elle est carrée et elle représente une scène de vendange. Voilà, avec au premier plan un foulon, c'est-à-dire un homme qui est dans une cuve pleine de grappes de raisin et qui foule le raisin pour qu'il en sorte du jus. Et ce jus sort dans un baquet devant ce grand fouloir et il sort d'un bon jus de bonne couleur. Et derrière, donc, il y a le pressoir. Il y a le pressoir qui est tenu par plusieurs personnages et qui est manipulé. Il y a la roue du pressoir derrière, on la voit, et qui presse le raisin. Voilà.
Et cette tapisserie, Marie-Madeleine, vous pourriez nous la dater ?
Alors, celle-ci, c'est une copie, une copie sans doute du 15e siècle.
Voilà. D'accord.
Et alors ensuite, il y a une petite tapisserie rectangulaire qui montre des animaux de la forêt. Donc il y a une biche et un cerf, il me semble, près d'une rivière. Et il y a une petite biche, oui, derrière encore. Une dame avec une robe rose, à ses pieds un lévrier. Elle paraît là. La personne paraît assise et derrière le seigneur ou un damoiseau qui lui, voilà, qui lui tourne autour, disons. Hein. Donc devant la dame, il y a un autre damoiseau devant un arbre qui est à genoux et qui doit aussi bien aimer sa frimousse. Donc il doit lui faire sans doute un hommage en vers ou... autre. Et derrière, donc, il y a une autre personne qui est peut-être une servante qui est debout près d'un autre arbre et avec un oiseau dedans. Et elle est vêtue, elle aussi, d'une robe rouge et elle tient une brindille à la main. Elle vient de cueillir quelque chose. Voilà.
Et c'est toujours
dans... Alors, toujours dans l'esprit du 15e siècle, 14e, 15e siècle.
Voilà, donc nous là, nous passons pour aller en face de ce mur qui est à droite, nous passons devant une pierre qui m'a interpellée en levant les yeux, tout de suite là, je la touche d'ailleurs. Françoise, qu'est-ce que représente cette pierre ou cette, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Alors cette pierre s'appelle un cartouche, c'est une pierre que nous avons trouvée dans les gravats. Alors, ça n'est pas simplement une pierre décorée sur une surface, c'est une pierre qui s'allonge et qui est une grande pierre rectangulaire, tout en longueur, et que nous avons volontairement placée dans ce mur, puisque à cet endroit, il y avait un trou.
D'accord.
Des pierres étaient tombées, sans doute, ou avaient été enlevées, on ne sait pas pourquoi, et nous avons décidé de placer ce cartouche, donc qui est comme une dent qui s'enfonce dans l'épaisseur du mur. Alors le cartouche est, comme tous les cartouches, de forme ovale, et des spécialistes voyaient autour ce cisaillement qui pourrait être des feuilles de laurier. Et au centre, alors ce cartouche a été buriné, a été abîmé, on ne sait pas par qui, on ne sait pas si ça vient du château ou d'ailleurs. Et au centre, soit c'était un profil de personnage, soit c'était deux lettres entrelacées. C'était un signe en général d'amitié, voire d'amour. Mm-hmm. Mais ça n'est pas lisible. Peut-être faudrait-il vraiment des spécialistes pour arriver à le rendre lisible.
Alors, nous continuons notre progression dans cette pièce. Donc, nous passons devant ce que vous nous avez décrit, qui est en face de la petite porte d'entrée. Donc, cet évier... Et en dessous,
le cendrier.
Le fameux cendrier. Donc, nous l'approchons un tout petit peu pour voir qu'il est quand même effectivement assez conséquent. Ce n'est pas un petit cendrier que nous posons sur une table, bien
non,
sûr.
Non, non, non.
Qui est à même la pierre, qui a été donc ouvert dans la pierre.
Oui, ça a été ménagé dans le mur. Mm-hmm. Hein, donc, c'est assez profond. Ça doit être une profondeur de 20 à 30 centimètres. Voilà, et puis assez large, 60 centimètres, oui. Mm-hmm. Oui, oui. Il y avait de quoi mettre de belles braises là quand même. Hein.
Effectivement, et là nous progressons toujours dans cette pièce, parce que comme vous disiez, elle fait quand même 100 mètres carrés, donc il y a de quoi faire, et nous nous dirigeons vers une porte. Alors vous allez me dire, Françoise, je lis toilette.
Alors, mais... Oui, mais... ça a été aménagé en toilette,
voilà.
Mais la porte est d'origine.
Oui.
Alors, nous ne l'avons pas changée parce que je trouve qu'elle fait tout à fait couleur locale. On a les pentures qui sont d'origine et cette petite poignée qui est 17e ou 18e siècle, qui est authentique. Et nous rentrons dans une salle... qui est aménagée dans l'autre tour, les tours qui sont excentrées,
voilà.
Qui sont en
D'accord.
dehors du château.
D'accord.
Et si vous voulez, nous allons rentrer.
Mais oui, parce que alors vous allez me dire pourquoi nous entrons dans des toilettes. Mais justement, il y a une petite marche où il faut faire très attention. Et nous apercevons tout de suite à droite, donc vous voyez, on change totalement d'acoustique. Et nous apercevons, donc je vais me rendre auprès de Françoise, un escalier, donc il est sous verre là. Qu'est-ce que c'est que cet escalier, Françoise ?
Alors là, nous sommes dans une tour de défense, encore une fois,
voilà.
Qui est aménagée dans une tour excentrée.
Lorsque vous ouvrez la porte, vous passez sur une trappe.
Voilà.
Et puis vous cheminez sur le côté du mur et vous arrivez à un espace ouvert avec 4 marches. Uniquement 4 marches. Et ensuite un grand vide qui fait plus de 3,50 m. Mmh. C'est ce que l'on appelle un cul de basse-fosse. Ça n'est pas une oubliette. Le cul de basse-fosse, c'est une prison. C'est un dépôt dans lequel on place les prisonniers avant leur jugement et la sentence, l'exécution de la sentence. Alors, pour ce faire, le prisonnier passe sur la trappe, arrive sur la première marche, on ouvre la trappe, ce qui permet au prisonnier de passer. Alors, est-ce qu'il y a une échelle ?
Oui, parce comment qu'il y a le descend-on ? Oui, voilà, c'est ça.
Il n'y a que 4 marches et ensuite un grand vide. Donc la question se pose, nous n'avons pas la réponse pour l'instant, comment descendait-on le prisonnier ? Nous avons retrouvé dans ce cul de basse-fosse des fers, c'est-à-dire que les prisonniers étaient quand même enchaînés.
D'accord, et oui, parce que...
Des fers et des menottes.
Ils pouvaient éventuellement, je ne veux pas dire qu'ils pouvaient se sauver ou fuir, parce que c'est quand même un petit peu difficile, mais peut-être que si les gardes ou les soldats étaient en campagne ou somnolés, effectivement, on pourrait penser qu'ils puissent fuir. Mais là, franchement, c'était un petit peu compliqué.
Oui, parce qu'il y a plus de 2 mètres de profondeur.
Il y a presque 4 mètres.
Il y a 4 mètres.
Oui. Et nous avons essayé de monter sur les épaules l'un de l'autre.
Oui.
Et en fait, on arrive simplement à s'agripper à la dernière marche.
Mmh. Ah,
donc,
oui.
Et sachant qu'au-dessus, il y avait des militaires.
Oui, oui.
Il y a 4 bouches à feu. Mmh. Donc, c'est une salle militarisée et qui, à mon avis, évitait toute fuite. D'autant plus que si vous fuyez, vous arrivez dans la salle des gardes où il y a...
Oui.
Probablement quelques militaires au repos.
Absolument. Et donc, nous sommes toujours sur le dessus de ces escaliers et nous apercevons en face des toilettes, des WC, un WC, mais particulier.
Alors voilà, ça c'est très drôle, c'est le côté humoristique face au côté dramatique. C'est ce que l'on appelle un cabinet d'aisance à l'anglaise.
Mmh.
Donc c'est une donation faite par une donatrice de notre village, une jeune femme qui a acheté la maison d'un menuisier et qui a eu la surprise au grenier, sous un tas de tôles, de découvrir ce meuble. Parce que c'est un meuble en chêne. Comme un trône.
Oui, absolument.
Très imposant, façon un peu gothique dans l'architecture. D'un côté, vous avez à hauteur d'homme une bougie. De l'autre côté du trône, vous avez une chaîne qui correspondait à une cloche pour appeler les serviteurs pour se faire toiletter, puisqu'il eût été indécent de se toiletter soi-même.
Oui, ça intrigue d'ailleurs Marie-Madeleine, qui regarde de près. Voilà.
Au bout de la chaîne, il y a une poignée en porcelaine, et c'est assez curieux. C'est vrai que ça a l'allure d'un trône...
royal.
Oui, et puis médiéval, enfin, c'est très... Il y a le sommet du dossier est en accolade, et on se croirait vraiment, je ne sais pas moi, dans une... presque dans une cathédrale anglaise.
Alors, ce cabinet d'aisance à l'anglaise, retrouvé dans la maison d'un menuisier, c'était des menuisiers de père en fils. Donc, on imagine que dans les années 1850, ou... un peu plus tard, ce cabinet d'aisance a été construit mais jamais livré puisque c'est resté sur place. Alors le petit côté amusant est sous l'abattant.
Oui, alors on va regarder cet abattant. Voilà, oui.
Et bien, une boîte à musique.
C'est pour s'endormir.
On ne sait pas quelle est l'indication.
Alors, est-ce que c'est le temps qu'il faut rester sur ce trône ?
Nous l'ignorons, mais c'est très drôle parce que les Anglais étaient les premiers à avoir mis en place des cuvettes en porcelaine, alors que les Français utilisaient encore des latrines ou la cabane au fond du jardin. Et là, c'est tout un meuble qui a été construit autour de toilettes qui étaient des toilettes sèches à l'époque. Puisque en dessous de la partie visible, il y avait un bac.
Ah oui, voilà.
Et on nettoyait de temps en temps ce qui était dans le bac.
Et là, donc, il a été mis sur une cuvette de toilette normale d'aujourd'hui.
Non, non, pas du tout. La cuvette est d'époque.
D'accord.
C'est dessous.
Il y avait en dessous, là, en dessous, un réservoir, un peu comme les cendriers.
En zinc, sans doute.
Non, c'était en bois.
C'était en bois.
Et c'était très amusant parce que ça donnait une hauteur vertigineuse. D'accord. Donc on imagine qu'il y avait une estrade pour pouvoir monter.
Ah voilà,
c'est ça.
Et s'asseoir sur ces toilettes très originales.
Donc c'est un véritable trône.
C'est un véritable trône. Oui.
Voilà, bah, écoutez, chers amis auditeurs, nous allons terminer par ce trône, donc, avec beaucoup de... Voilà, nous sommes très surprises. Personnellement, je n'en avais jamais vu encore. Donc voilà, donc si vous venez au château de Lanty, c'est que vous avez une envie d'aller aux toilettes. N'hésitez pas parce que ça vaut le coup. Pour le coup, ça vaut le coup. Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci Françoise.
Merci chers auditeurs.
Merci Marie-Madeleine.
À bientôt.
À bientôt.
Et donc à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Mais nous, peut-être que nous reprendrons par le trône parce que c'est quand même quelque chose à voir assez exceptionnel. Merci, au revoir à tous.
Au revoir.